Météo Marine, Ariel Cassim.
Bonjour à tous, vous écoutez RFI, on est ensemble pour la mer, bien entendu. Elle est notre cause, notre raison de vivre. Hein. La météo marine, comme chaque jour pour vous, dans quelques instants. Et ensuite, eh bien, nous serons avec Christian Clos, qui est explorateur et qui revient d'une expédition, l'expédition Yellow Continentale, qu'il a réalisée avec la géographe Mélusine Malander. Une découverte intégrale de la Patagonie jusque dans ses recoins les plus secrets. Et il est donc notre invité aujourd'hui. Il est aussi membre du comité directeur de la Société des Explorateurs. Explorateur français et auteur. Nous le retrouverons après la météo marine que voici. Anna Eltrin est à la technique, Mathias Golchani à la réalisation. Cette météo pour ce jeudi 3 septembre, pour Nord, Antilles, coup de vent en cours. Situation générale et évolution. Tempête tropicale Erika 2008 hectopascal par 16 degrés 5 nord, 62 degrés 7 ouest le 3 à 9h TU, se déplaçant vers le nord-ouest à 6 nœuds. Vent près du centre 35 nœuds avec des rafales à 45 nœuds. Erika est prévue par 17 degrés 9 nord, 65 degrés 6 ouest le 4 à 6h TU. Une dépression de 989 hectopascal par 54 nord 3 ouest se déplace nord-est en se creusant. Une dépression 2008 par 50 nord 26 ouest se déplace rapidement vers l'est. Elle est prévue 1008 hectopascal sur la Bretagne le 4 à 0h TU. Dépression relative 2018 hectopascal par 39 nord 56 ouest se déplaçant vers le nord-est en se creusant. Elle est prévue 1013 hectopascal sur l'extrême sud de Flémiche le 4 à 12h TU. Vaste anticyclone 2028 hectopascal par 36 nord 32 ouest se décalant vers le nord-est. Il est prévu 1026 par 38 nord 25 ouest le 4 à 12h TU. Il se prolonge par une première dorsale vers le sud du Portugal et par une seconde vers les Bermudes. Une onde tropicale se situe le long du 29 ouest et au sud du 19 nord se déplace vers l'ouest 15-20 nœuds. Une autre s'étend du 14 nord 45 ouest au 7 nord 42 ouest se déplace ouest 10-15 nœuds. Les prévisions par zone. Si vous êtes dans la zone Flémiche, le vent est variable 2 à 4, il s'oriente progressivement sud-ouest 3 à 5 et la mer est agitée. Faraday, variable 2 à 4, temporairement de nord-ouest 5 à 7 sur l'est au début, fraîchissant 4 à 6 sur le sud à la fin. La mer est temporairement forte sur l'est, pluie ou averse. Roméo, vent d'ouest 5 à 6, parfois 7 sur l'ouest au début, virant bientôt nord-ouest, devenant variable 2 à 4 à la fin. La mer est agitée à forte, pluie ou averse. Milne, dépressionnaire 3 à 5, parfois 6, mer agitée, pluie parfois orageuse avec rafale. Altaïr, dépressionnaire 3 à 5, fraîchissant progressivement 4 à 6 par l'ouest. La mer est parfois forte, pluie ou averse, devenant parfois orageuse et banc de brouillard. Charcot, le vent est d'ouest 3 à 5, localement 6 sur le nord, virant bientôt nord-ouest, devenant variable 2 à 4 plus tard. La mer est parfois forte aujourd'hui et il y a de la pluie. Ridge, le vent est de sud-ouest 3 à 5, fraîchissant parfois 6 sur le nord-ouest plus tard. La mer devient localement forte sur l'extrême nord-ouest plus tard. Quelques pluies ou grains orageux avec rafales. Açor, variable 2 à 4. Localement de sud-ouest 4 à 5 sur l'extrême nord-ouest. Mer agitée, quelques averses parfois orageuses. Joséphine, le vent est de nord 3 à 4. Il vire progressivement nord-est. Fraîchit 4 à 5 sur l'extrême sud-est à la fin. Mer agitée, plus éparse. Porto, le vent est de nord-ouest 2 à 4. Il vire nord 4 à 5 à la fin. Mer agitée, plus éparse. São Vicente, le vent est de nord 4 à 5. Fraîchit bientôt 5 à 6. Mer agitée à forte. Cadiz, le vent est de nord-ouest 3 à 5. Il devient variable 2 à 4 sur le sud-est plus tard. Mer peu agitée à agitée. Gibraltar Strait, vent d'ouest 3 à 5, parfois 6 aujourd'hui. Mer agitée s'atténuant. Est Bermude sur le nord, le vent est de sud-est sud-ouest 2 à 4. Sur le sud, le vent est d'est à sud-est 2 à 4. Mer peu agitée, agitée. Quelques grains orageux avec rafales. Colorado variable 2 à 4. D'est dominant sur le sud. La mer est peu agitée, agitée. Quelques grains orageux avec rafales. Irving, vent de nord-est 3 à 5. Mais variable 2 à 3. Sur l'extrême nord-ouest, mer agitée. Quelques averses parfois orageuses. Madeira, vent de nord-est 4 à 5. Mais 3 à 4 sur l'extrême nord-ouest et parfois 6 sur l'est. La mer est localement forte sur l'est, quelques averses. Casablanca, vent de nord à nord-ouest 4 à 6, rafale, mer agitée à forte. Agadir, vent de nord à nord-est 5 et 6, localement 7 sur l'est, des rafales, une mer forte. Tarfaya, vent de nord à nord-est 4 à 5, mer agitée à forte s'atténuant. Météor, le vent est d'est à nord-est 4 à 5, mer agitée. Canarias, le vent est de nord-est 4 à 5, parfois 6 entre les îles, mer agitée à forte. Cap Blanc, vent de nord-est 5 et 6, parfois 7 près du Cap Blanc, mer agitée à forte. Cap Timiris, vent de nord à nord-ouest 4 à 5, devenant dépressionnaire par l'est. La mer est localement forte sur le nord, grains parfois orageux, avec de fortes rafales sur le sud. Cap Verde, vent de nord-est 4 à 5, parfois 6 sur l'extrême sud-ouest. La mer est localement forte sur l'extrême est. Les grains sont parfois orageux, avec de fortes rafales sur le sud. Alizé Ouest, vent d'est à nord-est 4 à 5, mer agitée, quelques grains orageux avec rafales. Est Antilles, le vent est d'est à sud-est 3 à 5, mer agitée, quelques grains orageux avec rafales. Nord Antilles, la tempête tropicale Erika par 16 degrés 5 nord, 62 degrés 7 ouest le 3 à 9h TU, se déplace nord-ouest à 6 nœuds. Vent près du centre 35 nœuds avec rafales à 45 nœuds, s'étendant jusqu'à 200 000 nautiques dans le cadran nord-est et jusqu'à 150 000 nautiques dans le cadran sud-est. Elle est prévue par 17 degrés 9 nord et 65 degrés 6 ouest le 4 à 6h TU avec une intensité inchangée. La mer est localement forte à très forte, grains orageux avec de violentes rafales. Tout ceci pour Nord-Antilles. Pour Sud-Antilles, le vent est d'est à sud-est 4 à 5, mer agitée, grains orageux avec de fortes rafales sur le nord-ouest au début. Je vous rappelle donc pour la zone nord Antilles, coup de vent en cours. N'oubliez pas que tous les soirs, vous avez la possibilité d'écouter un bulletin proposé par la DRASSEC sur une fréquence locale. C'est à 20h, heure locale aux Antilles. Je crois que c'est 3000 USB. On se retrouve dans quelques instants sur RFI.
RFI, ensemble, parcourons le monde. Quotidien de la mer, Ariel Cassim.
Quelques nouvelles avant de retrouver notre explorateur. Il s'agit de Christian Clot qui va nous parler donc de la Patagonie. Sachez que début décembre, le porte-hélicoptère Jeanne d'Arc, navire école de la Marine nationale, va à Paris de Brest pour sa 44e et dernière campagne d'application. Sachez d'autre part que d'après un premier rapport de l'ONU datant de 2007, les prévisions s'échelonnaient sur une hausse de seulement de 18 à 59 cm en 2100 pour la montée du niveau des mers qui s'accélère. Et WWF a présenté une étude sur la fonte des glaces qui prévoit une montée d'environ de 1,20 m. Toujours sur la même étude, cette fonte menacera près d'un quart de la population mondiale. Pêche des fonds marins cette fois. Le Comité national des pêches maritimes et des élevages marins, interlocuteur privilégié du gouvernement et des administrations, a décidé de suspendre sa participation à la mission sur le chalutage en eau profonde. Cette décision a été prise à la suite de la démission de Louis Lepinsec, qui assurait la présidence de cette mission depuis la mi-août et a précisé dans un communiqué en se disant solidaire de l'ancien ministre socialiste de l'Agriculture et de la Pêche. Lancement officiel d'un circuit mondial des classes America, directement inspiré de celle des Louis Vuitton Pacific Series organisée en février en Nouvelle-Zélande. Alors les équipages de la classe America auront l'occasion de disputer à partir de la fin de l'année un circuit mondial de régate. Rappelons que ce circuit est destiné à faire naviguer les équipages privés de compétition en raison du long conflit entre le détenteur de la coupe, c'est-à-dire Alain Guy, et le challenger de la coupe de l'América. Voilà, on se retrouve dans quelques instants. Nous mettons le cap sur la Patagonie et n'oubliez pas que demain nous serons en direct de Saint-Malo pour les 1000 milles de Brittany Ferries.
écoutez le monde de la mer sur RFI.
Christian Clouse, bonjour.
Bonjour.
Christian Clouse, ce n'est pas la première fois que vous venez à cette antenne. Vous étiez venu nous présenter cette grande exposition que vous prépariez sur la Patagonie et qui s'appelle Yellow Continental 2009. Alors, vous êtes revenu il y a un mois et demi à peu près. Vous avez passé 6 mois dans cette région extrême qui est magnifique au milieu des glaciers et aussi en kayak de mer. Et
complètement.
C'est ça? Et vous étiez avec Mélusine, hein, donc
voilà.
On en parle.
Alors, on était à deux avec Mélusine Malander qui est géographe, instructeur de plongée sous-marine et on a voulu aller à la rencontre de ce milieu patagon. Moi j'avais été plusieurs fois déjà en terre de feu mais là je voulais rentrer dans la Patagonie de manière plus globale. Donc on a fait une expédition qui s'est déroulée sur terre dans la Pampa argentine, un peu sur le glacier de Yellow Continental qui sépare la Pampa et des canaux, et ensuite dans les canaux de Patagonie. Alors c'est plutôt de ça qu'on va parler aujourd'hui, évidemment.
Absolument.
Mais c'est ce qui est intéressant, c'est qu'on a sur un endroit comme la Patagonie, grâce au Yellow Continental, qui est la plus grosse surface glaciaire mondiale en dehors des deux pôles, une différence de climat totale à l'est ou à l'ouest de ce Yellow Continental. Comme il arrête toutes les dépressions qui arrivent du Pacifique, ben forcément tout se déverse sur les canaux et rien ne se déverse de l'autre côté. Donc on a un côté totalement aride et puis on a un autre côté qui est plutôt très très humide.
Ce Yellow Continental que vous connaissez puisque vous êtes allé déjà dans une première expédition.
Oui c'est ça, c'est un milieu qui est passionnant parce que simplement c'est un endroit qui est riche en totale mutation actuellement. C'est des montagnes très neuves et à la fois qui sont en train de changer très vite et qui subissent de plein fouet ce qu'on appelle aujourd'hui le réchauffement climatique, qui est un nom un peu générique pour dire tout et rien, mais qui en tout cas, le constat est simple, c'est qu'aujourd'hui on a des glaciers qui reculent de 100 à 200 mètres par an. C'est complètement gigantesque. Et le glacier qui recule le plus vite au monde, puisqu'il recule d'un kilomètre par an dans ce secteur-là. Donc c'est vrai que quand on est en kayak dans ces canaux, alors faut déjà s'imaginer le méandre de canaux. C'est des centaines de petits canaux, de fjords, de seigneaux entrecoupés de plusieurs îles. Il y a jusqu'à 13 000 îles dans tout ce secteur-là. Donc c'est vrai que quand on avance là-dedans avec un kayak, on est tout petit, on est soumis dans un climat énorme. Et puis on arrive parfois au bout de ces fjords et on voit ces fameux glaciers du Yellow Continental qui se jettent au fond des fjords, qui sont à la fois très impressionnants, à la fois très bruyants parce qu'ils bougent tout le temps. Il n'y a pas un moment où ils sont à l'arrêt. C'est des glaciers qui reculent et qui avancent très rapidement. Mais malheureusement, on peut que faire le constat que en ces 40 dernières années, les glaciers ont reculé de manière drastique, à tel point qu'aujourd'hui, le Chili commence à s'inquiéter sérieusement de sa réserve en eau douce, puisque le Yellow Continental constitue la plus importante réserve d'eau douce du Chili et une des plus importantes du monde. Donc c'est vrai qu'on peut pas être devant ces glaciers fabuleusement beaux et ne pas se poser ce genre de questions. Mais qu'est-ce qui est en train de se passer autour de nous pour que les choses changent si vite?
Et quels sont les effets sur la faune et la flore?
Alors c'est très intéressant parce que on est donc dans un milieu marin, forcément, c'est l'océan Pacifique, c'est fjords, mais à la fois au fond des fjords, on a un apport d'eau douce gigantesque. Donc entre le début et la fin des fjords, une salinité totalement différente et un système de chaleur totalement différent, très froid au fond des fjords, un peu plus chaud au début des fjords. Donc une faune et une flore très différentes, avec notamment certains animaux, certains poissons qui ne se développent qu'au fond des fjords et pas au début. Alors tout ça c'est encore très peu connu parce que malheureusement c'est des endroits difficiles d'accès, qui coûtent très cher éventuellement pour ceux qui veulent aller faire des études. Donc du coup il y a très peu de choses qui ont été faites, notamment par exemple une chose que nous on a voulu initier mais malheureusement qui s'est trouvé difficile à faire en kayak, c'est on n'a aucune idée de la réelle salinité de l'eau dans chaque secteur. Et ça, c'est une étude qui va se faire maintenant. On travaille avec un institut de Punta Arenas qui va se faire à partir d'octobre pour aller simplement prélever un peu d'eau dans chacun des fjords pour étudier la salinité, essayer de comprendre comment fonctionne aujourd'hui cette salinité, qui va aussi nous expliquer comment fonctionnent un peu mieux les courants. Et comprendre ces courants, ça va être comprendre pas mal de choses par rapport à l'ensemble du système des canaux de Patagonie.
Et on assiste bien sûr à une mutation des espèces, peut-être.
Forcément, une mutation qui est encore pas très bien comprise. Les arbres, par exemple, sont pas les mêmes là au fond des fjords qu'au début. Certains animaux, justement, les gros animaux ne vont pas au fond des fjords, les gros animaux marins, donc ils ne mangent pas de la même manière que dans les autres parties des fjords. Donc forcément, tout un écosystème qui se développe de manière très différente, et ce, à quelques kilomètres de distance. On parle pas là c'est parfois entre 2 et 3 kilomètres de distance, on a un changement profond de système de faune et de flore. Et ça, c'est passionnant. Mais évidemment, alors une expédition en kayak comme la nôtre que j'ai fait avec Mélusine ne permet bien entendu pas de ramener des résultats scientifiques énormes. Mais ça permet en tout cas d'initier quelques idées. C'est ce que j'avais voulu faire aussi dans mes précédentes expéditions pour travailler avec des scientifiques locaux et leur apporter non pas des données précises, mais des idées, des bons endroits pour aller faire les études. Parce qu'on est dans une zone énorme, c'est plusieurs milliers de kilomètres, encore une fois, des centaines de canaux. Quand on part pour faire une étude là-dedans, où est-ce qu'on va? Nous, notre rôle, ce qu'on a pu faire, au-delà de faire une expédition splendide qui nous est personnelle, mais le rôle, ce qu'on a pu apporter un petit peu à l'extérieur, c'est justement ça, apporter des photographies, des vidéos, des données techniques, des prélèvements de température, de petites choses, ramener ensuite à Punta Arena, qui peuvent permettre aujourd'hui aux scientifiques de programmer une étude qui va se faire sur 6 mois, de octobre à mars de l'année prochaine, pour maintenant aller vraiment se poser les bonnes questions sur quelque chose qui aurait dû se faire il y a très longtemps, ouais. Parce qu'on en parlera peut-être un tout petit peu, mais il y a pas mal de soucis aujourd'hui sur ces secteurs, notamment avec la fameuse marée rouge dont on commence à entendre pas mal parler, mais qui influence beaucoup la vie locale. Et ben tout ça, il faut essayer de le comprendre. Savoir aussi que les forêts qui entourent les fjords, c'est les moins connues du monde. Elles sont impénétrables. Donc quasiment personne n'a été faire d'études et de prélèvements à l'intérieur des forêts.
Ces forêts sont très spongieuses.
Forêts primaires, elles totalement spongieuses.
Impénétrables.
Voilà. Alors non seulement elles sont avec un sol très spongieux, difficile à marcher, mais en plus elles sont tellement inextricables de ronciers, de branches de tous les sens que marcher à l'intérieur de ces forêts, c'est très très difficile. Du coup, ben non seulement ces forêts sont peu explorées, ce qu'il y a derrière ces forêts, les parties altitude, mais derrière ces forêts, ben sont quasiment intouchées non plus, parce que d'abord faut traverser les forêts. Donc on est là, dans cette partie de la Patagonie, que ce soit les canaux, les forêts et ensuite les montagnes qui sont directement derrière, dans un des endroits parmi les moins connus scientifiquement et parmi les moins explorés de notre planète. Donc c'est forcément, faire une expédition là-bas, pour quelqu'un qui est explorateur, c'est du pas béni, ça reste, pour moi, c'est la terre promise de l'exploration aujourd'hui. Sans parler du domaine sous-marin.
Bien sûr. Christian Claude, ce sont des zones de surcroît qui ne sont pas notées géographiquement. Elles ne sont pas sur les cartes.
Alors, elles sont... Il faut relativiser. Alors, oui. Malgré tout, il y a eu des gros travaux hydrographiques faits par les Anglais d'abord et ensuite par les Chiliens. Les premiers étant Charles Darwin et Robert Fitzroy à bord du Beagle qui ont fait un travail énorme. Donc, il y a quand même une cartographie marine qui existe. Une cartographie terrestre, elle est quasiment à néant. Enfin, elle en existe une, mais qui est tellement fausse qu'elle est quasiment pas utilisable. La cartographie marine existe, et en tout cas tous les gros canaux, là où circulent malgré tout certains bateaux d'envergure, il y a des bateaux jusqu'à 180 mètres qui circulent dans les canaux principaux.
De tourisme ou de travail ?
Principalement de travail, quasiment pas de tourisme, il y en a quelques-uns, mais ce n'est pas la grosse activité là-bas. Mais ces bateaux profitent des canaux pour éviter le plein Pacifique. Ils sont un peu protégés dans les canaux, du moins le croient-ils, parce qu'il y a quand même régulièrement des accidents. Heureusement, les Chiliens ont des très très bons pilotes qui montent à bord des bateaux et qui permettent de passer ces plusieurs centaines de kilomètres de canaux. Mais dans les canaux principaux, du coup, on a quand même une cartographie qui est très bien faite, qui permet justement à des gros bateaux de naviguer. Par contre, dès qu'on sort de ces canaux-là et dès qu'on rentre dans les petits fjords, les petits seigneurs, alors là, c'est toute une autre histoire. Et nous, on a eu plusieurs fois la surprise en avec nos kayaks, de croire sur la carte qu'il y avait un passage ou qu'il y avait une ouverture ou deux fjords qui étaient reliés, et en fait de constater que pas du tout et qu'il fallait refaire une cinquantaine de kilomètres en aller-retour pour retrouver un autre passage. Enfin, on a eu beaucoup de surprises de ce type-là, donc il y a encore un gros travail cartographique à faire.
Et justement, est-ce que vous avez pu apporter quelques notions?
Oui, alors à chaque fois a constaté une erreur, entre guillemets, hein, parce qu'après, il faut relativiser le terme d'erreur dans la cartographie, c'est quelque chose qui est tellement complexe que. Donc on prenait évidemment un point GPS et photo, oui. Et ça, on a donné ces informations à la fois Punta Arena et à la fois moi j'avais déjà eu l'occasion de travailler avec l'IGM, l'Institut Géographique Militaire qui s'occupe de la cartographie pour mes précédentes expéditions en Terre de Feu, donc j'ai recontacté ces gens à qui j'ai redonné ces informations et alors évidemment ils intègrent tout ça, mais on sait bien que entre le moment où une information est donnée ou une nouvelle carte va sortir, ça peut encore prendre 20 ans par exemple. Néanmoins, ils font ce travail de collecter toutes les informations qu'on peut leur donner, d'aller vérifier ensuite sur place et puis de pouvoir corriger les cartes. Cela dit, bon, moi, je fais ça parce que j'estime que c'est bien de le faire. Et puis à la fois avec un petit pincement au cœur, parce qu'on se dit quand même que moi, j'aime cette idée qu'on peut encore aller dans des endroits où la cartographie n'est pas juste, n'est pas correcte, et qu'on peut encore trouver des endroits où on va pouvoir croire arriver quelque part et arriver dans un endroit très différent. Et en faisant ça, j'enlève peut-être un petit peu ça au prochain. Alors forcément, il y a toujours ce petit pincement au cœur de se dire, mais mince, je suis peut-être en train d'enlever un des derniers rêves qu'on peut avoir de l'exploration aujourd'hui sur Terre.
Kayak de mer avec Mélusine Malander, c'est une première, ce n'est pas évident pour une jeune femme.
Non, c'était intéressant, c'est vrai que moi j'avais pensé au début faire cette expédition en solitaire, comme j'avais fait dernière expédition, et puis en discutant avec Mélusine, d'abord on a réalisé qu'on avait envie de faire une expédition à deux, et puis aussi que c'était vraiment intéressant d'aller là, parce que un des buts de l'expédition principale était de se poser des questions sur la vie des Indiens Kawaskar qui vivaient dans ces fleuves, dans ces canaux, bien avant nous, et qui malheureusement ont pratiquement tous disparu. Et c'est vrai que pour mieux aller plus loin de cette compréhension sensitive qu'on voulait avoir, parce qu'encore une fois, on n'allait pas faire un travail archéologique précis, on n'allait pas faire un travail ethnologique, malheureusement ça c'est plus possible, mais une recherche sensitive de comment l'homme a pu s'adapter dans ces milieux-là. Mais finalement, il fallait au minimum être deux dans un sens, une femme et un homme, pour que chacun puisse apporter sa pierre à la compréhension de cette notion-là. Et en plus, je crois que j'avais très envie, pour moi qui maintenant ai déjà mené 4 expéditions en Patagonie, ça fait 10 ans que je fais un travail là-bas, de retrouver un regard neuf. Et c'est vrai que revoir aujourd'hui ces canaux de la Patagonie, revoir ces lieux au travers du regard de Mélusine, ça m'a fait retrouver beaucoup de choses, et notamment ce que moi j'avais pu vivre, même si on se lasse pas des choses, mais néanmoins on devient peut-être un peu blasé dans un certain sens par ce qu'on voit, de revoir un nouveau regard et d'écouter Mélusine qui me racontait sa Patagonie telle qu'elle la vivait elle, et ben j'ai retrouvé moi aussi plein de choses que j'avais peut-être un peu perdues, et j'ai retrouvé une Patagonie vierge, nouvelle, avec une envie profonde d'y aller encore plus loin. Et aujourd'hui c'est vrai qu'on a quelques idées, je sais pas si on y retournera rapidement, mais je me suis rendu compte que, contrairement à ce qu'on peut penser, il y a vraiment dans ces endroits-là de quoi passer un temps énorme à découvrir, à se reposer des questions sur nous, sur l'homme, sur ce qu'on est, notamment sur l'adaptation qu'on peut avoir dans les milieux extrêmes. Les canaux de Patagonie, pour moi, c'est un peu les origines du monde, c'est-à-dire qu'on est dans un endroit où tout paraît neuf. On peut s'imaginer qu'on se retrouve là comme on a pu être il y a quelques millions d'années en arrière, dans un endroit où quasiment intouché par l'homme, encore en pleine mutation, parce qu'avec ces vents gigantesques à plus de 200 km/h, ces précipitations permanentes, c'est le cataclysme quasi permanent dans ces endroits. Et dans ce cataclysme-là, on découvre une profondeur de vie, une passion de s'accrocher à ce qu'on est, à l'existence qu'on a, qui est peut-être unique par rapport à tout ce qu'on peut vivre aujourd'hui dans des sociétés qui sont un peu trop standardisées parfois. Donc c'est vrai qu'on se retrouve dans une sensation de perpétuelle nouveauté, de mouvement gigantesque autour de nous, et nous on est tout petit là au milieu, et on peut que essayer, non pas de lutter contre, au contraire, mais de s'y adapter, et surtout d'essayer de comprendre un tout petit peu pour pouvoir y survivre.
Vous étiez en kayak de mer.
Voilà, c'est ça. 2 kayaks de mer, un biplace et un monoplace, en fait. C'était la choix qu'on avait fait pour pouvoir emporter beaucoup de matériel, parce qu'on voulait aussi aller sur les montagnes, on voulait aussi aller en forêt, donc on avait du matériel un peu dans tous les sens.
Transporter.
Et on est resté 3 mois en kayak, en fait. Mm-hmm. On a fait à peu près 1500 km, mais je dirais que les distances veulent tellement rien dire dans ces endroits que ça, c'est pas l'important. L'intérêt, c'était vraiment de pouvoir rentrer dans un univers et ne plus le quitter pendant plusieurs moi, et essayer de vivre avec, de le subir dans un certain sens, mais aussi d'arriver à le comprendre.
Ça n'a pas été trop dur quand même avec ces fameux Willy-O, là, ces vents catabatiques.
Alors si, ça a été dur, il n'y a pas de miracle. Il y a eu des moments compliqués. Alors les 15 premiers jours ont été un enfer pratiquement, parce que vraiment on est rentré dans les 15 premiers jours de très très mauvais temps, tempête quasi permanente, à tel point qu'il y a eu un moment donné où Mélusine se posait même la question de comment elle pouvait s'adapter à ça. Enfin, ça paraissait, c'est vrai, quand elle n'a jamais vécu le vivre pour la première fois, c'est terrifiant. Et puis heureusement, on a eu un petit moment d'accalmie qui a permis de se rassurer, de voilà, ok, ça marche, on peut quand même évoluer. Et puis après, voilà, on a appris aussi à lire ces tempêtes, à les apprendre, à un peu les prévenir, à éviter d'être dehors au mauvais moment. Et puis finalement, on a constaté qu'on avait beau apprendre tout ce qu'on voulait, ça marche pas toujours. On s'est fait prendre par un Willy-Woo au milieu d'un canal, à tel point que Mélusine s'est fait éjecter, son kayak s'est fait éjecter, là, il s'est rompu, mais par une violence tellement forte. Au même moment, à une cinquantaine de kilomètres de nous, un porte-container chavirait sous la saut des vents, donc on peut s'imaginer le pauvre kayak, aussi solide soit-il, résister à ça. Donc voilà, on a perdu un kayak, heureusement on avait un biplace, donc on a pu continuer l'expérience. Mais je dirais que, alors évidemment, sur le moment on est pris, on est dans la tempête, des vagues énormes, le vent, une Mélusine qui se retrouve à nager au milieu d'un canal où moi je peux rien faire,
enfin,
tout ça, l'eau froide qui est à peine à 5 degrés à ce moment-là, donc tout ça, beaucoup d'inquiétude, beaucoup de stress, mais à la fois bon, on peut pas raisonner comme ça, on doit réagir, on réagit. Puis après, on a vraiment réalisé que, ben oui, on est venu là pour ressentir et sentir ces canaux. Et finalement, vivre ça, c'était aussi une partie de ces canaux, et notamment les Kaweskars, ces fameux Indiens qui avançaient en canot. Une de leurs plus grandes craintes, et quasiment mortelles à chaque fois, c'était justement les Willy-Woo. C'est-à-dire un de leurs petits canots de bois qui se faisait choper par un Willy-Woo. Eux, ils vivaient nus quasiment, en tout cas c'est la théorie la plus souvent admise. Ils se retrouvaient dans l'eau, ça n'était fini la plupart du temps. Donc finalement, ce qu'on a vécu, même si je le souhaite à personne dans un certain sens, ça fait partie de ce qu'on était venu chercher en Patagonie.
Ouais,
et heureusement, ça s'est bien fini, donc je peux le dire avec bonheur. Enfin, c'est toujours pareil, quoi.
Vous avez pris beaucoup de risques quand même.
Ouais. On a pris les risques, toujours, c'est pareil, en expédition, maîtrisés et suffisants pour vivre le rêve qu'on a fait, et à la fois pour essayer de rester en dessous de l'extrême. Là, on a été juste un tout petit peu trop loin, on n'a pas eu de chance dans un sens, et puis à la fin, encore une fois, ça s'est terminé merveilleusement bien, on a pu finir l'expédition quand même, il n'y a pas eu plus de casques, perdre un peu de matériel, donc il n'y a pas tellement de mauvais souvenirs par rapport à ça.
Vous allez repartir ?
Oui, bien sûr. Pas forcément en Patagonie d'ailleurs, parce que je pense que je retournerai en Patagonie aussi, mais je pense que poursuivre ce travail que j'ai initié dans les différentes expéditions, d'essayer de mieux comprendre comment l'homme s'adapte à sa terre, comment il peut survivre dans des milieux qui a priori ne sont pas faits pour lui, il faut que j'aille aussi découvrir d'autres milieux. J'avais été déjà dans des déserts et dans d'autres types de montagnes, j'ai envie d'aller un peu plus loin dans cette partie plus désertique et de forêts humides. Mais je sais que la Patagonie, j'y retournerai parce que tout simplement, c'est un lieu, comme je vous le disais, qui reste pleinement riche de découvertes à faire. On a très envie avec Mélusine, qui est instructrice de plongée sous-marine aussi, d'aller maintenant plonger en Patagonie parce que tous ces canaux offrent une eau d'une clarté exceptionnelle et aucune étude sous-marine n'a été faite là-bas, donc on n'a aucune idée sur les planctons, on n'a aucune idée sur la faune et la flore sous-marine. Donc il y a là un domaine de découverte gigantesque, sans parler, vous pouvez l'imaginer, du nombre d'épaves du galion espagnol à des choses beaucoup plus récentes qui sont actuellement au fond des eaux. Il y a un trésor inimaginable à découvrir. Quand je parle de trésors, je ne parle pas forcément de deniers sonnant et trébuchant, mais de découvertes, ce qu'ont été les premiers navigateurs là-bas. Donc le terrain est vaste et on peut encore faire beaucoup d'expéditions. Là, c'est vrai qu'il y a eu d'autres expéditions qui se sont faites en kayak. Il y a d'autres expéditions qui s'en feront encore. Et c'est ça qui est merveilleux, je pense, c'est que toutes ces expéditions, toutes ces personnes qui y vont aujourd'hui, qui le font avec, je pense, tous le même amour des lieux, la même envie de découvrir sans faire quelque chose de négatif par rapport aux lieux, je crois que c'est tout ça qui va faire que la Patagonie commence aujourd'hui à devenir un territoire de rêve pour l'homme et qui va rester, pour moi en tout cas, un endroit où toute ma vie, je pense que, un peu comme un point d'ancrage. Je sais que régulièrement j'y retournerai, ce ne sera pas mes seules destinations, mais il y aura toujours une petite part de moi qui regardera vers la Patagonie.
Merci Christian Clos. Bon vent. Et puis on vous attend à nouveau à cette antenne pour nous faire partager cette passion que vous avez pour la Patagonie, pour la nature tout simplement.
C'est toujours un bonheur. Et puis si les gens veulent aller un peu plus loin avec nous dans cette expédition, ils peuvent aller sur le site internet www.christianclos.com. C'est tout simple, c'est très nombrilique, c'est mon nom, c'est comme ça. Christian.